Bienvenue dans Pour de vrai, le podcast qui explore les faits réels avec une perspective féministe et engagée. Je m'appelle Clémentine et je pense que les histoires vraies sont souvent le reflet du monde qui nous entoure et peuvent nous aider à le comprendre et à l'appréhender. Le premier dimanche de chaque mois, je vous fais découvrir une nouvelle histoire vraie, parfois connue, parfois plus confidentielle. À la fin de chaque épisode, je vous donne mon avis. Et en me basant sur différentes sources, j'apporte un éclairage et mon analyse sur des thématiques en lien avec l'histoire. Bonne écoute! Dans ce nouvel épisode de Pour de vrai, je vous parle de Rosa Luxembourg. De son vivant, elle fut vivement contestée et plusieurs fois emprisonnée. Et depuis sa mort, elle a été célébrée et admirée, mais également attaquée et calomniée. Les esprits sont divisés et se divisent encore à son propos. Son assassinat en janvier 1919, à l'âge d'à peine 47 ans, a contribué à la légende qui l'entoure. Je vais vous raconter sa vie et son parcours. Puis, dans la deuxième partie de l'épisode, je vous donnerai mon point de vue sur son histoire et on reviendra un peu sur la notion de l'internationalisme. Bienvenue dans Pour de vrai. Rosa Luxembourg est née le 5 mars 1871 à Zamosk, dans la partie de la Pologne qui est à l'époque intégrée à l'Empire russe. C'est intéressant parce qu'elle naît le même mois où en France s'illustre Louise Michel lors de la Commune de Paris, et son histoire se passe à peu près à la même époque que l'histoire de Thérèse Imbert dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Je dois avoir un truc avec la fin du 19e et le début du 20e en ce moment. Donc on est vraiment à la même période, mais en Pologne. Le vrai nom de Rosa Luxembourg, c'est Rosalia Luxembourg, et elle est la cadette de 5 enfants d'une famille juive polonaise aisée. En 1873, la famille est confrontée à de mauvaises affaires, elle est appauvrie et elle emménage à Varsovie, ce que la petite Rosalia, âgée d'à peine 3 ans, vit péniblement. Ensuite, alors qu'elle est âgée de 5 ans, elle reste clouée au lit pendant de longs mois à cause d'un problème de santé. Elle a un problème à la hanche, on ne sait pas exactement ce que c'est, on va lui diagnostiquer par erreur une tuberculose osseuse, mais en fait il est plus probable qu'elle souffrait d'une forme de luxation. En tous les cas, sa famille lui fait plâtrer la jambe, et lorsqu'elle est déplâtrée, elle a une jambe plus courte que l'autre, et suite à ça, toute sa vie, elle va boiter. Mais d'un autre côté, cette immobilisation, ça a aussi été pour elle l'occasion de développer son goût pour la lecture, donc à partir de là, toute sa vie, elle va dévorer les livres. Et plus tard, elle développera aussi un goût prononcé pour l'écriture. Donc Rosa grandit dans une famille plutôt instruite. La mère de Rosa est également instruite. Elle aime lire avec ses filles les œuvres de poètes polonais et allemands. Et à partir de 1880, Rosa va fréquenter un lycée de jeunes filles dans lequel elle est admise malgré l'existence d'un quota maximal de juifs qui sont acceptés chaque année. Donc en fait, il y a un système de notation plus exigeant pour les juifs que pour les non-juifs, et malgré ça, vu qu'elle est douée, elle est acceptée, mais elle prend conscience pour la première fois de son statut de juive et de la discrimination qui est rattachée. Adolescente, Rosa est déjà révoltée par les injustices sociales, les discriminations antisémites et les violences qui les accompagnent. En plus d'être juive, Rosa, elle subit d'autres discriminations, celle d'être une femme évidemment, et aussi celle d'être une sujette polonaise dans l'Empire russe. Donc c'est cette triple discrimination qu'elle vit qui va l'amener à se révolter contre les injustices sociales et les inégalités. Et elle milite dès sa sortie du lycée, à l'âge de 16 ans, au sein du Parti Prolétariat, un parti marxiste et internationaliste. Alors qu'elle a 17 ans, en 1889, elle part pour Zurich, en Suisse, à cause de la répression des militants et parce que le climat politique devient de plus en plus menaçant en Pologne. Donc elle arrive à Zurich, qui est à l'époque un grand centre du marxisme révolutionnaire où résident de nombreux exilés. C'est là-bas qu'elle va poursuivre ses études. D'abord, elle étudie la philosophie, les mathématiques, les sciences naturelles, et puis elle va s'orienter vers l'économie politique. C'est aussi à Zurich que Rosa fait la connaissance d'un autre étudiant, Leo Jogiches. Il est lituanien, révolutionnaire et âgé de 4 ans de plus qu'elle. Cette rencontre va bouleverser sa vie. Léo a une solide expérience du militantisme clandestin, et Rosa et Léo entament une liaison. Leur relation va durer une quinzaine d'années, et leur collaboration politique, par contre, ne s'arrêtera qu'à leur mort. Même si, on y reviendra, tout n'est pas toujours tout rose entre eux deux. C'est lui aussi qui va pousser Rosa à s'orienter plutôt dans ses études vers l'économie politique que vers les sciences naturelles et la philosophie. À partir de là, Rosa s'adonne tout entière à la politique, sans délaisser pour autant ses études. Elle milite depuis l'étranger au sein du socialisme polonais en exil. En 1893, Rosa Luxembourg fonde, avec Léo Jogiches et Julian Marchlewski, la social-démocratie du Royaume de Pologne, connue sous les initiales SDKP, qui milite pour l'indépendance de la Pologne et qui se pose en partie rivale du Parti socialiste polonais. Le SDKP tient son premier congrès en 1894, mais c'est un tout petit parti, loin de regrouper les effectifs du Parti socialiste polonais. Mais le plus important, pour Rosa, c'est qu'il appartient à la grande famille de l'Internationale socialiste, qu'on appelle aussi la Deuxième Internationale. D'ailleurs, Rosa milite activement au sein de l'Internationale socialiste, elle participe à tous les congrès. Pour resituer, l'Internationale, c'est une organisation qui prône une coopération entre les peuples et principalement entre les ouvriers et les ouvrières. Donc d'après cette pensée et cette vision, l'appartenance à une nation divise les ouvriers au lieu de les unir. Les ouvriers, ils ont plus d'intérêts communs avec les autres ouvriers de tous les pays plutôt qu'avec les bourgeois et bourgeoises de leur propre pays. Donc pour résumer, on peut dire que l'internationalisme, c'est un peu l'inverse du nationalisme parce qu'il vise à dépasser les structures nationales pour le bien commun. À propos de l'international, Rosa écrit « La lutte de classe à l'intérieur des États bourgeois contre les classes dirigeantes et la solidarité internationale des prolétaires de tous les pays sont les deux règles de conduite indispensables que la classe ouvrière doit appliquer dans sa lutte de libération historique. Il n'y a pas de socialisme en dehors de la solidarité internationale du prolétariat, et le prolétariat socialiste ne peut renoncer à la lutte de classe et à la solidarité internationale, ni en temps de paix, ni en temps de guerre. Cela équivaudrait à un suicide. » Dans cette perspective, évidemment, Rosa elle s'intéresse aux luttes sociales du monde entier, ainsi qu'aux débats en cours dans les différentes organisations socialistes. Et ça lui est grandement facilité par le fait qu'elle comprend au moins 6 langues, le polonais, le russe, l'allemand, le français, l'anglais et l'italien. Par exemple, en France, Rosa va s'intéresser de près à l'affaire Dreyfus, qui a été une crise politique majeure. L'affaire Dreyfus, c'est, en quelques mots, le capitaine Dreyfus qui a été condamné par un tribunal militaire pour espionnage, alors qu'en réalité il était innocent, et puis on a découvert ensuite qu'il avait été condamné parce qu'il était juif, et donc sa condamnation a révélé l'antisémitisme qui était présent dans l'armée et dans toute la société. Toujours à propos de la France, quand un socialiste français devient ministre en 1899, Rosa va écrire « L'entrée des socialistes dans un gouvernement bourgeois n'est pas, comme on le croit, une conquête partielle de l'État bourgeois par les socialistes, mais une conquête partielle du Parti socialiste par l'État bourgeois. » Donc avec cette citation, on comprend bien que Rosa est révolutionnaire. Rosa, c'est aussi une oratrice de grand talent, elle fascine les foules, et elle est radicale dans sa pensée, mais elle a un grand sens de l'humour et une sensibilité qui l'aide à faire passer ses idées. Donc cette petite femme brune qui boite, elle parvient à s'imposer dans un univers masculin, dans les réunions internationales, sans jamais revoir ses idéaux. Après la Suisse, en 1898, Rosa débarque en Allemagne. Elle choisit l'Allemagne parce que selon elle, c'est ici que se joue l'avenir du socialisme mondial. La social-démocratie allemande éblouit tous les militants ouvriers du monde. Donc juste avant d'arriver en Allemagne, elle avait acquis la nationalité allemande par un mariage blanc, à Bâle, avec Gustav Lübeck. Selon les sources, ce serait le fils d'un vieux militant socialiste allemand, réfugié en Suisse, ou le fils d'une amie de Rosa, on ne sait pas exactement. Mais quoi qu'il en soit, dès qu'elle arrive en Allemagne, elle prend directement contact avec le SPD, le Parti social-démocrate allemand. Très vite, Rosa va se révéler comme la meilleure plume du parti SPD, elle écrit des articles et elle rencontre un grand succès en tant qu'oratrice et journaliste. Depuis Berlin, elle continue aussi ses actions avec le SDKP contre le Parti socialiste polonais, mais elle se rend compte que pour les socialistes allemands, les problèmes de politique polonaise se révèlent secondaires. Rosa se plaît beaucoup en Allemagne et dans une lettre datée d'août 1898, donc 3 mois après son arrivée à Berlin, elle écrit « Ces derniers temps, j'ai eu une vie intellectuelle très intense. J'avais beaucoup de matière à assimiler et je faisais plus de progrès en 1 heure qu'à Zurich en 1 an. » Assez vite, Rosa se fait un nom en tant que journaliste polémiste. Elle publie des articles qui font sensation. La presse bourgeoise parle d'elle et la caricature, et elle est invitée à dîner chez les cadres du parti. Elle se fait remarquer aussi parce qu'elle s'oppose au réformisme d'Edouard Bernstein, c'est une personnalité importante du SPD, qui prône un passage au socialisme en douceur, par des réformes sociales, alors que pour elle, on ne peut pas faire l'économie de la révolution. Par cette opposition frontale avec un des cadres du parti, Rosa se fait remarquer et elle devient une des personnalités de renom de la social-démocratie allemande. Elle entre comme rédactrice à l'organe central du parti, le Vorwärt, et ses articles sont aussi très bien accueillis parce que ses textes et ses argumentations sont de très bonne qualité. Elle va réunir ses textes et ses articles dans un livre intitulé « Réforme sociale ou révolution » en 1899. Et elle explique qu'en fait, elle n'est pas contre les réformes en soi, et elle soutient même la lutte des réformes sociales pour améliorer la vie des travailleurs et des travailleuses, mais pour elle, ces mouvements, ils ont surtout pour but de développer la conscience de classe des prolétaires, dans le but d'arriver à une révolution socialiste. Pour elle, je cite, « La grande importance de la lutte syndicale et de la lutte politique réside en ce qu'elle socialise la connaissance, la conscience du prolétariat et l'organise en tant que classe. » Donc finalement, les luttes syndicales et politiques sont donc avant tout une forme d'auto-organisation, un moyen de préparer la classe ouvrière à la conquête du pouvoir, à la révolution. Vous l'avez compris, pour elle, seule la révolution, à terme, permettra l'émergence d'une nouvelle société plus égalitaire et plus sociale. On peut se dire que cette success story politique au sein du SPD paraît étonnante. Finalement, qu'une jeune inconnue, de surcroît étrangère, même si naturalisée, ait pu percer si vite et soit devenue une personne importante au sein du parti. Mais en fait, ça s'explique parce que finalement, le parti y compte assez peu de dirigeants et peu d'intellectuels, et donc une personne comme Rosa, qui est capable d'écrire et de parler au public, est une aubaine pour faire circuler leurs idées. En plus, j'y reviendrai dans la conclusion, mais le fait que Rosa soit une femme, c'est finalement presque un avantage, parce qu'elle est hyper efficace, elle communique très bien, mais elle ne représente pas une menace pour les cadres du parti, parce qu'en tant que femme, elle n'a pas le droit de voter ou d'être élue. En septembre 1903, Rosa participe à un congrès de la social-démocratie à Dresde, et pour les paroles qu'elle va prononcer, elle va être condamnée en janvier 1904 à 3 mois de prison. Ce sera sa première peine de prison. Elle a alors 33 ans. Avant de passer à la suite, je fais un petit point sur le rapport de Rosa au féminisme. Déjà, il est important de dire que Rosa est proche de la théoricienne du féminisme Clara Zetkin. Alors Clara Zetkin, j'en ai déjà rapidement parlé dans un épisode de Déguiller le patriarcat. Elle est à l'origine de la journée du 8 mars pour les droits des femmes et elle a aussi participé à la création de l'Internationale socialiste des femmes. Et, en gros, avec Rosa, elles sont finalement assez d'accord, sauf que Clara place les femmes au centre de sa vision, et pas Rosa. Rosa, elle collabore avec Clara Zetkin au cours de sa vie, mais elle s'exprime pas dans les schémas féministes de l'époque. Donc on peut dire qu'à proprement parler, c'est pas une militante féministe, puisqu'elle s'intéresse pas spécifiquement aux droits des femmes. Mais par contre, tout comme Clara Zetkin, elle critique le mouvement bourgeois des suffragettes. Elle se prononce néanmoins en faveur du droit de vote des femmes, qu'elle qualifie de nécessité urgente. On pourrait dire que pour Rosa, le statut inférieur des femmes, tout comme l'antisémitisme par exemple, disparaîtra quand viendra le socialisme. En fait, elle place la lutte des classes au-dessus de toutes les autres luttes et elle milite pour les droits des femmes à travers le socialisme révolutionnaire. D'ailleurs, à ce titre, elle écrit parfois des articles dans la revue féministe de Clara Zetkin, Die Gleichheit, l'égalité en français. Sur un autre plan, Rosa, comme elle s'intéresse à ce qui se passe partout dans le monde, elle aura aussi des relations avec les dirigeants de la social-démocratie de Russie, dont Lénine. Rosa va d'ailleurs beaucoup critiquer Lénine pour sa vision autoritaire du communisme et elle va publier de nombreux articles qui l'accusent de préparer la dictature sur le prolétariat plutôt que la dictature du prolétariat. D'ailleurs, en 1905, en Russie, une révolution totalement inattendue éclate. Semblant sortie de nulle part, les couches les plus opprimées et marginalisées de la population ont envahi les rues pour exiger la démocratie et de meilleures conditions de vie. Pour couvrir l'événement, parce que tout ce qui touche à la révolution, Rosa, ça l'intéresse, donc elle se rend en Pologne clandestinement. Elle veut vraiment vivre les événements de l'intérieur, et je pense aussi que ça l'intéresse de voir comment ça se passe là où elle a grandi, puisqu'elle a quitté la Pologne depuis quand même quelques années, et elle s'installe à Varsovie sous une fausse identité. Elle va publier une série d'articles sur le mouvement et elle défend l'idée qu'il annonce une nouvelle ère révolutionnaire. Mais elle est arrêtée en mars 1906 et emprisonnée en Pologne, à la citadelle de Varsovie. C'est sa deuxième détention et elle est éprouvante. Elle va être libérée en juillet à la suite du versement d'une caution par le SPD. Suite à ça, elle va encore être emprisonnée quelques fois, notamment en Allemagne. Je détaille pas toutes les fois où elle est emprisonnée parce que finalement, en tant qu'opposante politique, ça lui arrive assez régulièrement. Par contre, je veux faire ici une petite parenthèse vie privée, parce que c'est à ce moment-là que Rosa va rompre avec Léo Giogiches. J'ai brièvement déjà parlé de leur relation. Elle l'a rencontré à 19 ans en Suisse et ils sont restés ensemble une quinzaine d'années. Ils se sont écrits des centaines de lettres, mais leur relation elle était plutôt compliquée, notamment en raison de la masculinité toxique de Léo. Parce qu'en effet, lorsque Rosa va rompre avec lui, après sa sortie de prison, il fait plusieurs intrusions à son domicile, il intercepte son courrier et il la menace même de mort. Malgré tout ça, ils vont rester en contact toute leur vie, comme j'ai dit, mais c'est fou de se dire qu'en plus de gérer la prison, la répression et ses combats politiques, Rosa devait en plus dealer avec un ex toxique qui la menaçait de mort. Après, entre 1907 et 1915, elle va avoir une relation avec Kostia Zetkin, qui est le fils cadet de son amie Clara Zetkin. Il a 14 ans de moins qu'elle, et là aussi, ils vont avoir une correspondance très riche. C'est dans ces années aussi que Rosa commence à enseigner l'économie politique, et elle publie, en 1913, son œuvre majeure, qui s'appelle « L'accumulation du capital ». C'est un gros ouvrage qui s'inspire des théories marxistes pour formuler une critique du capitalisme et de l'impérialisme. Aussi, Rosa Luxembourg, elle va toujours militer avec passion contre le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Dès 1907, lors de l'Internationale, elle avait fait adopter au SPD, le Parti social-démocrate allemand, des résolutions qui condamnaient la politique coloniale et selon lesquelles, en cas de guerre, le parti devrait s'opposer au conflit et donc tout faire pour empêcher une guerre et utiliser, si possible, la situation de crise pour précipiter le renversement du système capitaliste. Donc ça montre vraiment que Rosa, elle sentait que la situation était, on peut le dire, explosive et qu'elle voulait utiliser ça pour créer la révolution du peuple sur les dirigeants plutôt qu'une guerre entre dirigeants qui se ferait aux dépens des peuples. Elle va d'ailleurs prononcer en 1913 un discours antimilitariste à Francfort-sur-le-Main dans lequel elle appelle les ouvriers allemands à pas prendre les armes contre leurs frères de classe d'autres nationalités. Mais ce discours lui vaudra d'être une fois de plus emprisonné pour incitation publique à la désobéissance. Donc là, on était en 1913, et jusque-là, les socialistes étaient plutôt d'accord avec ces déclarations et l'idée qu'ils avaient eux-mêmes accepté de tout faire pour empêcher une guerre de se déclencher, et ils vont tenir leur résolution jusqu'en 1914, jusqu'à ce que l'Europe s'embrase. Là, le SPD va voter les crédits de guerre. Karl Liebknecht, qui est un membre important du SPD, et le fils de son cofondateur, et qui a toujours été formellement opposé au militarisme, sera le seul membre du SPD à voter contre les crédits pour déclarer la guerre à l'Empire russe en août 1914. Donc la Première Guerre mondiale éclate, Karl Liebknecht est exclu du parti, et avec Rosa Luxembourg, ils vont fonder la Ligue spartakiste. Donc le nom spartakiste fait référence à la révolte des esclaves conduite par Spartacus à l'époque romaine. Contrairement au SPD qui a choisi de s'intégrer au processus parlementaire, Luxembourg et Liebknecht y restent sur leur ligne radicale et soutiennent, comme toujours, la nécessité de l'action révolutionnaire. Le mot d'ordre de Rosa, ça devient « socialisme ou barbarie », donc la formule n'est pas d'elle, mais elle résume bien sa vision. C'est-à-dire que si le monde ne se dirige pas vers le socialisme, c'est la barbarie qui va prendre le dessus. Et en effet, on sait maintenant que ce mot d'ordre s'est révélé prophétique puisque la défaite du socialisme, tel que le concevait Rosa, a ouvert la voie à la victoire du fascisme hitlérien et a mené par la suite à la Deuxième Guerre mondiale et aux formes les plus horribles de barbarie moderne que l'humanité ait jamais connues. À cette époque, Rosa a une brève liaison avec Paul Lévy, un membre de l'aile gauche du SPD, qui est aussi son avocat lors de son procès, qu'elle va perdre, pour incitation publique à la désobéissance, donc pour le discours antimilitariste qu'elle avait prononcé. Et en 1915, Rosa est emprisonnée pour un an après le jugement qui suit ce procès. En 1916, Rosa et Karl seront à nouveau incarcérés pour avoir manifesté publiquement contre la guerre à Berlin. Dans l'une des lettres de prison qu'elle adresse à Sonia Liebknecht, son amie très chère et l'épouse de Karl Liebknecht, Rosa Luxembourg écrivait « Nous vivrons et nous verrons se reproduire des événements grandioses. Pour l'instant, nous assistons à l'effondrement du vieux monde qui croule par pans entiers, jour après jour. Ce qui est le plus surprenant, c'est que la plupart des gens ne s'en aperçoivent pas et croient marcher encore sur un sol ferme. » Ces mots de Rosa font évidemment référence à la guerre mondiale qui battait son plein entre 1914 et 1918, mais on peut aussi y voir une vision prémonitoire qui résonne fortement aujourd'hui. Je fais maintenant une petite parenthèse ici pour évoquer une facette de Rosa Luxembourg que j'aime beaucoup et qui, je pense, permet de mieux la comprendre. Au-delà de ses activités politiques, Rosa avait un grand intérêt pour le vivant, pour la botanique. Elle a même parfois des discours qui tiennent de l'écologie avant l'heure. Elle s'est toujours intéressée à la botanique, à la nature, et elle dévore des ouvrages de sciences naturelles, de botanique, de zoologie. Elle en parle beaucoup dans les lettres qu'elle envoie depuis sa prison, notamment à son amie Sophie Liebknecht, et on sait aussi qu'il y a des gens qui lui envoyaient des fleurs et des plantes en prison. Et elle tenait un herbier dans lequel elle décrivait toutes ces plantes. Il a été conservé, et il a d'ailleurs été récemment publié, et il constitue un très beau témoignage de ses années de prison. À la fin de l'année 1918, les choses vont se précipiter pour Rosa. La révolution allemande de novembre 1918 renverse l'empereur Guillaume II et dans la foulée, Karl et Rosa sont libérés de prison. La révolution est là, 500 000 grévistes défilent dans la rue, les spartakistes ont lancé le soulèvement avec l'espoir d'emporter avec eux le peuple allemand tout entier et Rosa Luxembourg, fidèle aux siens, accompagne le mouvement. En décembre 1918, la Ligue spartakiste crée, avec d'autres groupes militants, le Parti communiste d'Allemagne. Rosa Luxembourg, de façon prémonitoire, écrit un texte qu'elle n'a pas pu publier elle-même en raison de son arrestation et de son assassinat, dans lequel figure cette fameuse phrase « La liberté, c'est toujours la liberté de penser autrement ». Et c'est le 15 janvier 1919 que des corps francs se présentent au domicile clandestin de Rosa et l'arrêtent. Les corps francs, Freikorps en allemand, c'est une organisation paramilitaire contre-révolutionnaire et ultranationaliste, officiellement illégale, mais qui est à la botte du gouvernement, et ils ont pour mission de réprimer l'insurrection spartakiste, de rétablir l'ordre. Par la suite, ce sont d'ailleurs eux qui vont venir remplir les rangs nazis. Arrêtée, Rosa est conduite à l'hôtel Eden, qui sert de quartier général aux corps francs, et elle subit un interrogatoire auquel elle refuse de répondre. Ensuite, des militaires l'emmènent pour l'escorter en prison. Alors qu'elle est dirigée vers la sortie de l'hôtel, elle est frappée à la tête, à coups de crosse de fusil. À moitié consciente, on la fait ensuite monter dans une voiture pour la conduire en détention. Mais, alors que le véhicule a à peine parcouru 100 mètres, Rosa Luxembourg est tuée d'une balle dans la tête par l'un des corps francs, probablement le lieutenant Vogel qui commandait l'escorte. Son cadavre est jeté dans le Landwehrkanal. Un communiqué mensonger paraît ensuite, affirmant qu'elle a été tuée par une foule de citoyens en colère. Karl Liebknecht est arrêté lui aussi et également tué le même jour en sortant de l'hôtel Eden par l'escorte qui était censée l'emmener en prison. Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht ont donc été tués tous les deux sous les yeux des socialistes au pouvoir et probablement avec leur complicité. La même semaine, beaucoup d'autres opposants politiques ont été tués, et c'est pour ça qu'on parle de la Semaine sanglante de Berlin. Le 25 janvier 1919, symboliquement, un cercueil vide représentant Rosa Luxembourg est enterré en même temps que celui de Liebknecht et de 31 autres victimes de la répression. Après ça, Leo Jogiches tente de découvrir la vérité sur la mort de Rosa, mais en mars 1919, à peine 2 mois après la mort de Rosa, il est arrêté puis assassiné. Et ce n'est que le 31 mai qu'un corps, identifié comme celui de Rosa, sera finalement repêché dans le canal. Certains des corps francs impliqués dans les assassinats ont été condamnés, mais ils ont été amnistiés par le chancelier Hitler par la suite. Rosa a été assassinée, mais son message est resté vivant, un message révolutionnaire et humaniste. Après sa mort, Rosa est célébrée dans la presse communiste. Elle a reçu des hommages publics, notamment en RDA, où chaque année, sa célébration est une affaire d'État. Évidemment, lors de ces fêtes, l'ancienne Allemagne de l'Est met l'accent sur ses positions anti-guerre et anti-capitalistes et passe sous silence l'attachement et le combat de Rosa pour la liberté d'expression et de la presse. Au fil du temps, Rosa Luxembourg est devenue un symbole révolutionnaire et il existe des rues et des écoles qui portent son nom. Son personnage apparaît dans des films et des chansons et des livres lui sont consacrés, aussi bien grand public que des analyses universitaires. Que ce soit dans sa critique du capitalisme comme système inhumain, dans son combat contre le militarisme, le colonialisme et l'impérialisme, ou dans sa vision d'une société émancipée, sans exploitation, sans aliénation et sans frontières, les idées et les écrits de Rosa Luxembourg continuent d'inspirer les militants et militantes de gauche du monde entier. Comme je l'ai dit, il existe énormément de documentation pour Rosa Luxembourg, mais il y a deux œuvres que j'aimerais vous citer en particulier et que j'ai utilisées pour préparer cet épisode. Il s'agit d'abord de « Commencer à vivre humainement », un recueil de lettres de Rosa Luxembourg paru en 2022 aux éditions Libertalia, et d'une bande dessinée « Rosa la Rouge » par Kate Evans, paru en 2017 aux éditions Amsterdam, que je vous conseille pour la précision et la douceur avec laquelle elle raconte la vie de Rosa. Je trouve que la bande dessinée, en mettant en scène des tranches de vie, permet de mieux saisir l'énergie et l'ambiance de sa vie. On arrive maintenant à la deuxième partie de cet épisode, celle où je vous donne mon point de vue et mon analyse personnelle sur cette histoire. Pour commencer, je dois vous dire que j'ai eu un peu de mal à écrire cet épisode, tellement il y avait d'informations et tant les sources étaient nombreuses et riches. Alors comme j'ai dit, il existe des bandes dessinées, il existe des lettres, mais il existe aussi des biographies de 800 pages ou des analyses très poussées sur les idées de Rosa Luxembourg, et en plus de ça, elle a elle-même beaucoup écrit. Alors évidemment, j'ai pas pu tout prendre en compte et c'était impossible de tout lire. Et aussi, sa vie est intrinsèquement liée à l'histoire politique de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et même si cette période m'intéresse beaucoup, je ne suis pas historienne. Et il est parfois difficile de saisir et de restituer tout le contexte. Surtout que Rosa, comme on l'a vu, maintenait des liens et intervenait dans la politique de plusieurs pays, avec chacun des situations bien spécifiques. Donc pour cet épisode, j'ai essayé de résumer les informations, j'ai dû passer rapidement sur certains sujets tout en essayant de garder du sens et j'espère que j'ai pas fait de trop gros raccourcis. Maintenant, pour entrer plus en détail dans mon point de vue, ce que je trouve intéressant avec la vie et les idées de Rosa, c'est qu'elles ont plusieurs niveaux. On voit qu'elle s'intéressait à beaucoup de choses différentes et qu'elle les mettait en lien entre elles. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à parler de sa passion de la botanique, par exemple, qui fait sens avec sa vision de la vie et de la politique. Je me dis aussi qu'elle devait être un peu, entre guillemets, hyperactive, ou en tout cas très dynamique, pour écrire autant, participer à autant de réunions politiques, et je trouvais que c'était vraiment intéressant de mentionner parallèlement à ça sa rupture et le comportement problématique de Léo Dieugichès. Ça montre que même dans les cercles militants qui prônent la lutte contre la domination et les oppressions, eh bien en fait ils sont finalement quand même traversés par des enjeux de pouvoir et de domination, notamment sexistes. Et j'imagine qu'à l'époque, c'était encore plus banalisé que maintenant. On peut aussi penser aux militantes du MLF qui, après mai 68, ont décidé de créer leur propre mouvement parce qu'elles en avaient marre de faire les cafés. Finalement, on voit que même dans les groupes révolutionnaires, les femmes sont souvent reléguées à des rôles secondaires et d'intendance. Pourtant, avec Rosa, c'est un peu différent. Je vois là aussi une forme de paradoxe parce que, en fait, dans le mouvement socialiste, elle a pu prendre finalement une grande place. Pour l'époque, elle avait beaucoup d'indépendance. Si elle s'était mariée pour avoir des papiers, ensuite elle a eu plusieurs liaisons, elle n'a pas eu d'enfants. Il semble qu'elle a mené sa vie comme elle le semblait. Donc elle participait à la vie politique, elle avait des idées, elle écrivait, elle donnait des conférences. Mais d'un autre côté, elle était dans l'impossibilité d'accéder à des postes importants dans les partis ou dans les instances politiques, principalement parce qu'en fait elle n'avait pas le droit de voter. Et dans le cas de Rosa, c'est peut-être un peu différent puisque de par sa vision révolutionnaire, elle n'a pas envie d'entrer dans le système politique institutionnel qu'elle souhaite renverser. Mais en même temps, je pense que c'est peut-être ce qui lui a permis de prendre autant de place, d'être tolérée dans ses cercles, parce que de toute manière, comme elle n'avait pas le droit de voter et d'être élue, ben elle ne représentait pas une vraie menace pour le pouvoir des hommes, puisqu'elle ne pouvait pas prétendre à un poste de pouvoir en tant que femme, et d'autant plus d'origine étrangère, même si elle était naturalisée. Pourtant, c'est important de le soulever, en Allemagne, les femmes ont pu voter et être élues plus tôt que dans d'autres pays d'Europe, donc en 1919, c'est l'année de la mort de Rosa. À propos de la mort de Rosa en martyr, je trouve qu'il est important de relever l'hypocrisie qu'il y a, selon moi, dans le fait que les États célèbrent les révolutionnaires en leur attribuant des noms de rue ou des hommages publics. Donc en France, par exemple, il y a plusieurs écoles Rosa Luxembourg, il y a une place Rosa Luxembourg à Paris, alors que finalement, ces mêmes États, ils doivent leur survie, leur maintien, qu'à l'absence de révolution. En fait, j'ai envie de dire qu'on dirait que les bons révolutionnaires sont des révolutionnaires morts en martyrs et tués par un régime avec lequel le pouvoir actuel est en opposition. Je pense qu'il faut y voir une symbolique. C'est une manière pour les dirigeants actuels, de prendre la distance avec leurs prédécesseurs, donc de dire « nous, on réhabilite ceux que vous avez tués parce qu'on n'est pas comme vous », mais d'un autre côté, c'est quand même assez hypocrite et assez bizarre de porter au nu des personnes qui se sont quand même rebellées contre l'ordre établi de l'époque, de donner leur nom à des écoles, à des places, et en parallèle de réprimer violemment les personnes qui se soulèvent actuellement. Je reviens encore sur la notion d'internationalisme qui a été vraiment incarnée par Rosa Luxembourg, notamment au moment du vote des crédits de guerre en 1914, auquel elle a été finalement assez seule à s'opposer. Donc vous l'avez compris, elle disait vraiment que la solidarité devait avoir lieu entre les prolétaires plutôt qu'entre les nationaux. Et au final, effectivement, dans une guerre, le peuple envoyé au combat, dans les tranchées, dans le cas de la Première Guerre mondiale, a plus d'intérêts communs avec les soldats d'en face qu'avec les dirigeants de son propre camp. Et finalement, à mon sens, dans notre monde actuel, donc à l'époque de la globalisation, de la mondialisation néolibérale, de la domination planétaire du grand capital financier, la nécessité d'une riposte internationale, d'une internationalisation de la résistance, bref, d'un nouvel internationalisme finalement, est plus que jamais d'actualité. Pourtant, on ne trouve pas de figure qui représente ce mouvement et la nécessité de s'associer, de la coopération des exploités et des opprimés dans tous les pays. Mais malheureusement, c'est l'inverse qui se passe. La montée actuelle de l'extrême droite dans beaucoup de pays, l'inflation, la pauvreté qui se développe, montrent bien les dangers que représentent, pour les travailleurs et les travailleuses, le nationalisme, le racisme et l'impérialisme. Pour terminer, je dirais juste que l'internationale socialiste, elle existe toujours, mais sous une forme qui a été redéfinie en 1951. Et en fait, c'est une sorte de fêtière qui regroupe les partis socialistes de plusieurs pays. Donc c'est bien moins radical qu'à l'époque de Rosa Luxembourg. Vous venez d'écouter Pour de vrai, et je vous en remercie chaleureusement. Vous trouverez toutes les sources et références citées et utilisées pour préparer cet épisode dans la description. Si vous aimez ce podcast et que vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute. Pour m'aider à faire connaître Pour de vrai, vous pouvez aussi lui donner 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, ou même laisser un commentaire. Vous pouvez aussi le recommander à vos amis. Et pour ne rien rater en attendant la sortie du prochain épisode, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe. À bientôt !